Chapitre 7. Une triste mort. Quand Sébastien apprit que Fabiola était revenue de la campagne, il regarda comme un devoir d'aller lui conseiller de veiller sur elle en lui racontant le dialogue qu'il avait surpris entre Corvinus et l'esclave noire, ménageant comme il put cette dernière afin de ne pas l'exposer à de mauvais traitements. Nous avons déjà remarqué que parmi tous les jeunes gens familiers de la maison du riche Fabius, un seul excitait le respect et l'admiration de Fabiola, ce jeune homme privilégié, c'était Sébastien. Il paraissait si franc, si généreux, si brave et pourtant si modeste, il s'oubliait si complètement lui-même pour ne songer qu'aux autres. Son langage, comme sa conduite, avait quelque chose de si bon et de si doux. Il réunissait dans son caractère tant de noblesse à tant de simplicité, une haute sagesse au sens pratique que la noble patricienne voyait en lui le type le plus accompli de cette vertu virile à laquelle le temps et l'habitude n'ôtent rien de leur auréole. Quand on vint annoncer à Fabiola que le jeune officier désirait lui parler sans témoin et l'attendait dans une des salles du bas, son cœur battit violemment et les plus étranges pensées lui vinrent dans l'esprit sur les motifs que pouvait avoir cette entrevue. Son agitation augmenta encore quand, après s'être excusé de se présenter ainsi devant elle, il lui dit en souriant qu'il savait que la liste des prétendants à sa main lui paraissait déjà trop longue, mais qu'il avait le regret de venir ajouter à cette liste un nouveau candidat qui briguait cet honneur sans s'être cependant encore déclaré. Cette préface ambiguë surprit la jeune fille et la flatta peut-être. Mais sa vanité fut de courte durée quand Sébastien lui apprit que ce prétendant mystérieux était le vulgaire et stupide Corvinus. Fabius lui-même, si indulgent, l'avait assez jugé à son dernier banquet pour parler de lui à sa fille en employant ses épithètes peu flatteuses. Sébastien craignait le pouvoir physique des drogues d'Afra plutôt que leur puissance morale. Il crut donc de son devoir de prévenir Fabiola du complot formé contre elle par les deux complices dans l'art ténébreux et dont le but direct, pensait-il, était de faire donner de l'argent à une dupe avare. Sébastien ne lui dit rien de ce qui regardait les chrétiens dans la dernière partie du dialogue. Il mit simplement la jeune fille sur ses gardes et elle lui promit d'empêcher les excursions nocturnes de l'esclave magicienne. Elle était convaincue qu'Afra n'avait pas l'intention d'accomplir sa promesse, elle ne craignait pas son art mystérieux, qu'elle méprisait profondément. Le dernier monologue d'Afra semblait prouver qu'elle n'avait qu'un but, tromper celui dont elle était la complice. Mais la noble patricienne se révoltait à la pensée que sa personne était marchandée par deux créatures civiles, deux misérables qu'il avait représentées comme une femme avare qu'on achetait à prix d'or. « Que c'est bon à vous, dit-elle enfin à Sébastien, d'être ainsi venu me mettre sur mes gardes. J'admire la délicatesse avec laquelle vous avez traité une affaire si désagréable et la modération que vous savez employer en parlant de chacun des personnages de cette scène. J'ai fait dans cette circonstance ce que j'aurais fait pour toute autre créature humaine, essayer de lui épargner une peine, un danger, répondit le tribun. « J'espère que vous indiquez dans ce moment vos amis seulement. Sans cela, je craindrais que toute votre vie ne s'épuisât en accomplissant des actes de bonté sans récompense. Je désire qu'elle soit ainsi employée. Je ne puis consacrer ma vie à une meilleure occupation. » « Parlez-vous sérieusement, Sébastien? Si vous voyez quelqu'un qui vous haïsse, qui désire votre mort, menacé d'une calamité qui le rendrait sans défense, « iriez-vous lui tendre la main pour le secourir, le sauver ?»« Certainement, je le ferai. Lorsque Dieu envoie son soleil et sa rosée sur ses ennemis comme sur ses amis, comment un homme si faible pourrait-il se conduire autrement que lui ?» Ces mots étonnèrent Fabiola. Ils lui rappelaient son parchemin mystérieux. Ses sentiments étaient ceux qu'exprimaient les théories morales de son esclave. « Vous êtes allé en Orient, Sébastien ?» lui demanda-t-elle vivement. « Est-ce là que vous avez étudié ces doctrines ? J'ai près de moi une jeune fille qui, volontairement, est restée esclave. C'est une femme d'un haut sens moral, elle m'a exposé les mêmes théories que vous, et elle est asiatique. » « Je n'ai pas étudié ces doctrines dans une contrée lointaine, je les ai sucées à Rome avec le lait de ma mère, quoiqu'elles tirent leur origine de l'Orient. » Elles sont vraiment belles dans leur abstraction, remarqua Fabiola. Mais la mort nous atteindrait avant que nous ayons pu les réaliser à demi, si nous les choisissions comme des règles de conduite. La mort ne pourrait, je ne dis pas nous surprendre, mais nous frapper dans un meilleur état qu'en accomplissant notre devoir sans avoir encore atteint la perfection. Pour moi, résuma la jeune femme, je suis de l'avis du vieux poète épicurien. Le monde est un banquet que je serai disposée à quitter quand j'aurai eu ma part. Ut conviva satur, comme un convive rassasié, mais pas avant. Je désire lire jusqu'à la fin le livre de la vie et ne le fermer que lorsque j'aurai terminé la dernière page. Sébastien secoua la tête en souriant et dit « La dernière page du livre de ce monde peut être placée pour nous dans le milieu du volume et nous pouvons tourner soudainement la page où la mort est écrite. Mais à la feuille suivante commence le livre lumineux d'une nouvelle vie et pour ce livre resplendissant, il n'est pas de dernier feuillet. » « Je vous comprends, reprit joyeusement Fabiola. Vous êtes un valeureux soldat et vous parlez en brave. Vous devez être toujours disposé à la mort dont mille accidents vous menacent. Mais chez nous, la mort est rarement si soudaine, elle vient avec plus de compatissance et comme en rampant pour ménager notre faiblesse. Quant à vous, vous attendez sans doute un sort plus glorieux, vous rêvez de mourir la poitrine remplie des flèches des ennemis et de tomber couvert de gloire. Déjà, vous voyez le bûcher du soldat surmonté de trophées érigés en votre honneur. Pour vous, s'ouvre après la mort la page brillante du livre de la gloire. » « Non, vous vous trompez, noble Fabiola, répliqua vivement Sébastien. Ce n'est pas cela que je veux dire. Je ne désire pas une gloire dont on ne peut jouir qu'en la rêvant d'avance. Je parle de la mort vulgaire qui m'est commune avec le plus pauvre esclave qui peut me venir lentement par une fièvre consumant ma vie, par une longue consomption ou par des ulcères qui envahiront peu à peu mon corps et même peut-être par les plus cruels supplices infligés par la colère des hommes. Sous quelque forme qu'elle se présente, la mort me viendra d'une main que j'aime. Voulez-vous réellement dire que la mort ainsi considérée serait près de vous la bienvenue? Je la recevrais avec joie, comme l'épicurien, quand il voit à travers les portes de la salle du banquet grandes ouvertes, au-dessous des lampes brillantes de lumière, la table étincelante, couverte de mets délicieux et entourée d'esclaves, le front ceint d'une couronne de roses. Mon cœur serait rempli de joie comme celui de la fiancée quand on lui annonce que l'époux arrive, portant ses présents magnifiques pour la conduire dans sa nouvelle demeure. La mort, sous quelque forme qu'elle se présente, ouvre des portes construites en fer de ce côté-ci de la vie, en or de l'autre côté. Et ces portes conduisent à une vie nouvelle et sans fin. La laideur du messager qui viendra m'ouvrir m'importe peu, puisqu'il m'introduira près de celui qui est la beauté infinie. « Et qui est-il ? » demanda vivement Fabiola. « Ne peut-on le contempler qu'à travers le squelette décharné de la mort ?»« Non, répondit Sébastien, car il doit nous récompenser non seulement pour notre vie, mais aussi pour notre mort. Heureux les cœurs purs et innocents, jusqu'au fond desquels il a toujours lu, et dont toutes les actions ont été vertueuses. » Ceux-là seront admis à le contempler, et cette vision de la souveraine beauté sera leur vraie récompense. Que ces doctrines ressemblent à celles de Syrah, pensa Fabiola. Mais avant qu'elle pût demander quelle était l'origine de cette philosophie, un esclave entra et s'arrêta respectueusement sur le seuil en disant « Madame, un courrier arrive à l'instant de Baïa. » « Pardon, Sébastien, s'écria-t-elle. Puis, s'adressant à l'esclave, « Faites-le entrer immédiatement !» Le messager arriva alors couvert de poussière. Il paraissait très fatigué et avait laissé son cheval exténué à la porte. Il remit à la jeune fille un paquet scellé. Sa main trembla en le prenant et, brisant les bandes qui l'attachaient, elle demanda en hésitant « Est-ce un message de mon père ?»« Il le concerne au moins, » répondit l'envoyé. À cette parole inquiétante, Fabiola ouvrit la lettre, la parcourut en un instant, poussa un cri étouffé et tomba évanouie. Avant qu'elle eût touché la terre, Sébastien la ramassa, la déposa sur une couche et la remit aux mains de ses femmes que son cri avait fait accourir. Un regard lui avait tout appris, son père était mort.